Bonjour à vous tous. Vous savez, parfois nous oublions qui nous sommes. C'est tellement facile parfois, même pour les gens qui sont dans l'Église depuis longtemps, dans un sens d'oublier l'approche unique que nous avons dans l'Église du Dieu vivant. Et plusieurs de nos jeunes dans l'Église, ceux qui ont grandi dans l'Église, l'oublient parfois aussi, qu'ils soient baptisés ou non. Mais qui sommes-nous? Il nous faut réfléchir à cela profondément, parce que c'est un élément très important. Et aujourd'hui, nous allons examiner ce point. Vous qui êtes plus nouveau dans l'Église, il vous faut le comprendre aussi. Et je ne m'adresse pas seulement à ceux dans la salle ici aujourd'hui, mais nous enregistrons le sermon que je présente et il sera envoyé sous format DVD à nos frères et sœurs à travers le monde, en Australie, en Europe, dans les Antilles, en Afrique du Sud, en Malaisie et ainsi de suite. Alors, ces gens-là, nos frères et sœurs, auront ce message bientôt. Alors, je m'adresse à vous tous et à vous, les jeunes ici et les jeunes gens à travers le monde dans l'Église. Il vous faut savoir qui nous sommes. Qu'est-ce que l'Église du Dieu vivant? Comment sommes-nous différents des autres? Qu'est-ce que nous prêchons vraiment? Et pourquoi il est si important d'être membre de l'Église de Dieu? Il nous faut comprendre ces choses beaucoup, profondément. Et nous devons comprendre ce que la Bible enseigne véritablement. Parce que la plupart d'entre vous comprennent ça, mais avec le temps, parfois, ça devient comme moins évident. Et il y a toutes sortes de publications qui sortent, comme le Code Da Vinci, qui mettent la Bible au défi, pour ainsi dire. Alors, il nous faut retourner sur la base et lire les matériels que les serviteurs de Dieu publient, comme par exemple la Bible fait ou fiction par M. Winnell. Lorsque je suis venu à l'Église, à l'ambassadeur collège, il a fallu que je prouve les choses par moi-même et que je dois le faire encore plus en profondeur. Il y a des prophéties spécifiques qui parlent de nations précises dans la Bible. Ce ne sont pas des généralités comme ce que Nostradamus a écrit, des choses vagues, difficiles à saisir. La Bible mentionne des choses spécifiques à répétition, des choses devant arriver. Des douzaines de ces prophéties-là se sont déjà produites, comme Dieu a dit, et d'autres sont en train de se produire sous nos yeux. Ce livre, la Bible, révèle la pensée du Dieu vivant qui vous donne la vie et le respire à chacun d'entre vous. Ce livre représente la pensée de Dieu. C'est sa pensée par écrit, et il nous faut le comprendre. Alors, il nous faut comprendre ce que la Bible dit concernant qui nous sommes et ce que nous devons devenir. Tournons à Colossiens chapitre 1, un livre écrit par Paul, un des serviteurs de Dieu qui a travaillé le plus. Il a écrit 14 livres de la Bible, Épître aux Colossiens. Ceux qui sont nouveaux avec nous, vous n'avez peut-être pas de Bible, vous pourrez l'apporter avec vous la semaine prochaine, parce que c'est bon de suivre et de vérifier les choses par nous-mêmes lorsqu'on écoute un message, de prendre des notes et de vérifier par nous-mêmes ces choses-là dans nos propres Bibles. Monsieur Armstrong nous a dit régulièrement de faire ces choses-là aussi. Alors, Colossiens, chapitre 1 et le verset 24, Paul dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Et Paul a vécu toutes sortes d'épreuves. Il a été battu, il a été lapidé. Il a été laissé pour mort, dans une mare de sang à Lystre. Et il s'est relevé et il est retourné dans la ville pour prêcher la parole de Dieu encore. Et il dit, « Je me réjouis dans mes souffrances et j'achève dans ma chair, je l'achève par ma souffrance en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Le Christ avait un corps physique lorsqu'il était sur la terre, mais nous sommes actuellement son corps collectivement. Nous faisons son œuvre, nous proclamons son message par écrit, par la télévision, à la radio, par Internet et par tous les moyens qui sont à notre disposition. Alors, Paul, c'est ce qu'il faisait à ce moment-là. L'Église est le corps du Christ. Il dit, verset 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Et regardez le prochain verset. « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Frères et sœurs, autour du globe, à travers toute l'histoire humaine, il y a des êtres humains qui ont cherché à avoir des réponses à des questions fondamentales. Pourquoi est-ce que l'humanité existe? Pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance humaine qui frappe la terre? Qu'est-ce que tout ça veut dire? où est-ce que cela mène? Et c'est pour ça que je suis venu à l'ambassadeur collège il y a 57 ans. J'avais grandi dans une église protestante au Midwest américain. J'ai grandi dans l'église méthodiste et j'étais entouré d'amis qui étaient baptistes ou d'autres églises. Ils ne comprenaient pas la vérité. Certains de mes amis prenaient beaucoup d'alcool et ne comprenaient pas ce qui se passait dans le monde à ce moment-là. Et ils disaient, on ne veut pas combattre la guerre de Truman. Ils étaient frustrés. Et à l'époque, je me rappelle de Bill Steinbach, avait été à la guerre. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Il avait été tué au combat et c'était l'entraîneur de nos équipes. Nos compagnons, les jeunes gens, ne comprenaient pas pourquoi il était mort. Nous cherchions à comprendre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Quel est le sens de notre vie? Alors, Paul dit ici, c'est le mystère caché de tout temps, mais qui est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître, verset 27, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Beaucoup de ministres dans les églises protestantes sont très éduqués, ont des belles voix profondes, mais ils sont éduqués dans l'éducation de ce monde. Et ils parlent de ces choses-là comme ici. Ils parlent de la gloire du Christ et ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ce sont des mots qui résonnent dans leur bouche, mais dont ils n'expliquent pas la signification. Le Christ en vous, c'est l'espoir de la gloire. Si le Christ vit vraiment en nous, un jour, mes amis, nous allons devenir comme lui, littéralement. C'est-à-dire comme il est aujourd'hui, en ce moment. Il est assis sur le trône de son Père, dans les lieux célestes. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Son visage resplendit plus que mille soleils, et sa voix est comme mille tonnerres. Ça, c'est le Christ de la Bible. Ce n'est pas le petit Jésus dans la crèche. Absolument pas. Nous serons comme ça un jour. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons tel qu'il est. Et nous serons fils et filles de Dieu à part entière, non pas des pseudo-enfants. Nous serons réellement les fils et les filles de Dieu. Et la gloire que nous aurons à ce moment-là est littéralement incompréhensible pour notre esprit humain maintenant. Mais Dieu est en train de nous développer pour nous préparer à devenir ses fils et ses filles à part entière. À ce moment-là, nous aurons la gloire de Christ. C'est lui que nous annonçons, verset 28, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. On ne peut pas être humainement parfait, mais il faut être sans reproche. Il faut être en train de marcher vers la perfection, vers la maturité spirituelle en Jésus-Christ. Être en union avec le Christ. C'est-à-dire marcher avec le Christ, devenir de plus en plus comme lui, l'imiter. Et le Christ est Dieu. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et Dieu a agi puissamment en Paul. Et Dieu peut faire la même chose à travers chacun de vous ici et vous qui m'écoutez à travers le monde. Et vous, les jeunes gens qui m'écoutez, vous pouvez faire la même chose aussi. Il faut que ça ait du sens à vos yeux pour que vous changiez votre vie, que vous ouvriez votre esprit et votre cœur pour marcher selon les voies de Dieu et demander sa force pour y arriver. Qui était Jésus-Christ dont Paul parle ici? Comment se fait-il qu'il est si important? Allons à Jean chapitre 1, s'il vous plaît, et je veux vous parler du Christ. Qui est ce Dieu vivant, ce grand personnage? Alors, allons à l'Évangile de Jean, le chapitre 1, s'il vous plaît. Et ici, c'est un verset qui remonte, disons, à des temps plus anciens que Genèse 1:1. M. Armstrong en parlait régulièrement. Dans le temps, ça remonte avant ce que Genèse 1:1 raconte. Voici, on parle du vrai commencement ici. Au commencement était la parole. Et en grec, c'est le logos, L-O-G-O-S, qui veut dire porte-parole, celui qui parle au nom de, celui qui parle pour l'autre grand personnage. Le Christ était le deuxième dans la famille de Dieu. C'était lui, la parole, et c'est lui la parole. Alors, au commencement était la parole, et la parole, le Christ, était avec Dieu, et la parole était Dieu, parce que le Christ est Dieu aussi. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Vous allez trouver cette même déclaration dans Éphésiens chapitre 3 et le verset 9. Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Dieu a utilisé le Christ, la parole, pour créer toutes choses. Ils sont un, comme le Christ a déjà mentionné. Ils sont un dans leur but, dans leur mentalité, dans leur façon de penser. C'est une équipe parfaite, en harmonie parfaite. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ça dit plus loin que il est venu vers les siens, verset 11, les Juifs l'ont tué, ils ne l'ont pas reconnu. Il est venu, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en hébreu et en grec, la question du nom représente tout ce qui concerne une personne, sa puissance, son poste, son caractère, sa façon de penser. Le nom d'une personne représente ça. Alors, il nous faut croire tout ce qui concerne le Christ pour accomplir le but de notre appel et de notre vie. Et il était depuis le commencement avec Dieu, donc depuis toute l'éternité. Allons à Jean, chapitre 5, maintenant. Nous verrons ici au verset 37. Jean 5 et le verset, commençons au verset 36 pour avoir le flot de l'histoire, le suivi de l'histoire. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, c'est le Christ qui parle, il parle de Jean-Baptiste ici, « car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est le Père qui a envoyé le Christ sur la terre, a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face ou sa forme. À aucun moment, les êtres humains n'ont vu Dieu le Père. Gardons ça à l'esprit alors que nous allons continuer dans le sermon. Allons maintenant au tout début, allons au livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Le premier verset de la Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » On ne sait pas à quel moment c'était. S'il vous plaît, ne vous imaginez pas qu'on pense que cela a eu lieu il y a 6000 ans. On n'a jamais enseigné ça. Certains créationnistes pensent ça, mais ça n'a pas de sens, c'est insensé. Les planètes, la terre, le monde physique existent depuis des millions, peut-être des milliards d'années. Et le premier verset décrit le moment où Dieu a amené tout cet univers physique en existence. Donc, au commencement, il y a eu un créateur. Tout ceci ne s'est pas donné la vie ou donné l'existence par soi-même, par hasard. Et après avoir créé et recréé la terre en un sens, la terre où nous vivons, et mis les animaux sur la terre, comme nous les connaissons maintenant, verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Remarquez que Dieu ici ne dit pas « faisons l'homme à mon image », mais il dit « faisons l'homme à notre image ». Ils étaient deux personnages à ce moment-là. Il n'y avait pas seulement qu'un personnage. Toutes les traductions bibliques rendent ce passage-là exactement en parlant au pluriel ici. « Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et ainsi de suite », c'est-à-dire qu'il règne sur la création physique. Alors Dieu a créé l'homme à son image. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et la femme a été créée sur le même niveau d'existence que l'homme. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes sur la terre et plusieurs religions même qui traitent la femme comme un animal, alors qu'elle a été créée au même niveau que l'homme. Homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur toute la création, alors qu'il continue à faire la description de sa création. Alors, depuis le début, Dieu a voulu que l'homme administre la création et règne sur la création. Mais on voit ici qu'il y avait plus qu'un être pour procéder à la création. Il y avait Dieu et son porte-parole, le Christ par qui et pour qui a été créé toute chose. Allons à Genèse 15, s'il vous plaît. Genèse 15 et le verset 1 maintenant. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et en hébreu, le mot éternel, c'est Yahweh, ici, celui qui vit éternellement. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Et Dieu lui a promis un enfant et Dieu lui a dit après ça, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, regarde le cosmos, regarde les étoiles et si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. Des millions et des centaines de millions d'individus, d'êtres humains vont naître de toi. » Et son nom plus tard a été changé en Abraham. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice, verset 6. En qui Abraham a-t-il cru? Il a cru au Christ, Jésus-Christ. Il n'était pas encore le Christ, mais il a cru à celui qui était le Dieu de l'Ancien Testament, le Christ. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun être humain qui n'a jamais entendu Dieu, qui n'a jamais vu Dieu le Père comme tel, qui n'a jamais vu Dieu le Père. Mais le Christ a été celui qui a fait la création, c'est lui qui a eu une relation directe avec Adam et Ève et avec Abraham ici, et qui a parlé à David, qui a parlé à ses serviteurs directement. Il était le deuxième dans la famille de Dieu et c'est lui qui a tout fait ça. Allez au verset 26 de ce magnifique livre de Genèse, s'il vous plaît. Genèse chapitre 26 et nous allons commencer au verset 3. Ici, Dieu parle à Isaac. Celui qui est devenu le Christ s'adresse à Isaac. « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Alors, cette grande promesse que Dieu avait donnée à Abraham, il la transmet ici à Isaac et après à Jacob. « Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. » Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'était une promesse de Dieu. Et frères et sœurs, il faut comprendre qu'il y a une dualité de réalisation ici. Bien sûr, c'était une promesse de la venue du Christ en tant que sauveur spirituel. Mais par ailleurs, dans cette dualité, d'un autre sens, les nations de la terre ont été bénies par les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, à travers la descendance de Joseph, Éphraïm et Manassé, par l'Angleterre et les États-Unis. Nous sommes ceux qui un jour ont envoyé 600 bateaux aux Indes lorsqu'ils mouraient de faim. Nous sommes ceux qui ont établi la paix mondiale après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont les États-Unis qui ont travaillé à maintenir l'équilibre de la paix sur la terre. Depuis 200 ans, Dieu nous a utilisés pour faire ça. Nous avons fait notre travail de façon très imparfaitement, bien sûr, et nous avons nos fautes individuelles de fornication, d'homosexualité, d'adultère, de meurtre. Et nous tuons des dizaines de millions de petits-enfants avant qu'ils naissent. Et maintenant, aux États-Unis, on enlève même les commandements de Dieu des places publiques. On méprise les lois de Dieu, mais Dieu va intervenir pour ébranler nos nations juste avant de renvoyer, de retourner le Christ sur la terre pour établir son gouvernement. Le verset 5, maintenant, un peu plus loin, « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. » Dieu a toujours voulu que ses serviteurs fassent ce qu'il dit. Ce n'est pas une foi vide, ce n'est pas une foi sans les œuvres. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte, comme on voit dans Jacques 2, verset 26, et comme c'est marqué ailleurs aussi. Il nous faut être disposés à faire ce que Dieu nous dit. Abraham nous a donné l'exemple à plusieurs reprises, et il a été béni parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Pas seulement parce qu'il a cru en Dieu, mais parce qu'il a obéi à sa voix, qu'il a agi en conséquence. Et par après, Abraham est allé dans la terre promise et il a été disposé même à sacrifier son fils unique. Il a démontré à Dieu qu'il tenait à lui obéir. Abraham a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements. Oui, les commandements de Dieu existaient à ce moment-là. Ils ont été codifiés au mont Sinaï, mais ces lois-là existaient avant parce que la nature même de Dieu existe dans ses commandements. C'est le reflet de sa personnalité, de sa culture, de sa façon de penser. Et ces lois spirituelles que Dieu a données à l'humanité agissent, elles produisent leurs effets. Et il nous faut le comprendre. C'est une chose très importante. Abraham a été disposé à obéir aux commandements, aux statuts de Dieu et à ses lois. Quel était ce Dieu qui avait relation avec Abraham à ce moment-là? C'était le Logos, le porte-parole de Dieu, celui qui allait devenir plus tard notre Sauveur Jésus-Christ. Allons au livre d'Exode, s'il vous plaît. Le livre d'Exode est ici. Nous voyons que le Logos, le porte-parole, est apparu à Moïse. Exode 19, verset 19, verset 18. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Qui était ce Yahweh? Qui était cet Éternel? C'est celui qui est devenu plus tard Jésus-Christ. Les êtres humains n'ont jamais vu Dieu le Père. Jean l'a indiqué dans 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu le Père. Mais ici, ils ont vu son porte-parole, celui qui allait devenir Jésus-Christ. Alors cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Lorsque le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement, Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Il a entendu la voix de Dieu, la voix du porte-parole de Dieu. Ainsi l'Éternel descendit, et ainsi de suite. Et allez à Exode 20, verset 1, maintenant, lorsqu'il donne les commandements, « Alors Dieu prononça ces paroles. Qui était ce Dieu? C'est ce même Dieu qui est mort par après pour vous et pour moi. C'est celui qui nous a créés en créant Adam et Ève. Et c'est celui qui a fait Adam et Ève à l'image de Dieu. C'est ce Dieu qui a créé l'univers physique et spirituel. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'Égypte. Oui, c'était Jésus qui les a sortis d'Égypte. C'est celui qui a envoyé les plaies en Égypte à ce moment-là, avant leur sortie. Et ne pensez pas que le Père est jaloux de Jésus-Christ. À plusieurs reprises, c'est marqué dans les textes d'honorer le Fils et d'honorer le Père, donc les deux. Verset 3, il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ça comprend le Père et le Fils. Verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée. » On ne doit pas se faire d'image ou de sculpture ou de peinture représentant Dieu. C'est impossible de prendre Dieu et de l'enfermer dans un vulgaire encadrement. Lui qui est le Tout-Puissant. On voit ça dans le monde protestant. Et même on représente le Christ comme quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à un juif, avec un teint très pâle, avec des longs cheveux même, alors que la Bible dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. On le présente comme un être efféminé, faible, alors que c'était un jeune juif rempli de vigueur, de force, au teint basané, et qui mettait en application les lois de Dieu. Mais les gens essaient de mettre Dieu dans un encadrement, et c'est un blasphème, ne faites pas ça. On ne doit pas regarder vers ces images-là pour prier et se prosterner devant elles. On voit ça à travers l'Europe et on voit ça à travers le monde aussi, dans plusieurs églises. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, verset 7. Les gens, un peu partout dans le monde, même à la radio, la télévision, utilisent le nom de Dieu à toutes les choses, à la légère. Il ne faut jamais prendre le nom de Dieu à la légère. C'est un commandement. Rappelez-vous le sabbat. Souviens-toi du jour du repos, verset 8. J'avais observé le dimanche toute ma vie avant de connaître la loi de Dieu. Mes sœurs, la même chose. Et quand arrivait la fin décembre, on observait Noël, on allait sous le sapin pour voir les cadeaux que le Père Noël nous avait apportés en descendant par la cheminée. Mais le Père Noël, c'est pas vrai, vous savez. C'est un mensonge. Et les gens créent beaucoup de sentimentalité autour de ça, autour de cette fête qui n'est pas une fête divine. Et on regarde même à travers le monde, il y a toutes sortes de façons d'adorer leurs dieux et leurs idoles, avec toutes sortes de lumières et de festivités, et ainsi de suite. Mais ces gens-là ne croient pas au Christ de la Bible et n'y croiront pas jusqu'au moment où Christ sera revenu. Tous ceux qui ont grandi dans le monde protestant ont assumé que les gens étaient comme eux. La plupart des gens sur la face de la terre n'ont même jamais entendu le nom de Jésus-Christ. Des millions, et peut-être même des milliards de gens, même au cours de l'histoire, n'ont jamais entendu le nom du Christ. Certains n'observent pas Noël ou les Pâques. Bien sûr, ils ont des familles, ils ont leurs fêtes religieuses à eux, qui sont différentes de celles de la Bible, et ainsi de suite. Mais Dieu nous dit ici, observez le sabbat que je vous donne. En 6 jours, verset 11, Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui est contenu. Mais le 7e jour, il s'est reposé. Et il dit, verset 10, mais le 7e jour est le jour du repos, et on sait quel jour il s'agit. Les Juifs ont continué à l'observer tel quel, à partir du coucher du soleil le vendredi soir jusqu'au coucher du soleil le samedi soir. Ils ont préservé, tel que c'est mentionné dans la Bible, dans Romains au chapitre 3, les Juifs ont maintenu les oracles de Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et voici verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. » Qui? Celui qui allait devenir le Christ. Et bien sûr, c'était le Père qui travaillait à travers le Christ. Mais c'est celui qui allait devenir le Christ, le porte-parole de Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui s'est reposé le 7e jour. Alors, ce jour est une période de temps sacrée, sainte, mis à part. Vous le savez, et traitez, s'il vous plaît, ce jour-là comme un temps saint. Je sais qu'il y a des jeunes dans l'Église qui font leurs propres choses le jour du sabbat. Vous allez le regretter un jour. Cessez de faire ça. Observez ce temps mis à part par Dieu. C'est vraiment majeur. L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a mis des bénédictions particulières dans cette période de temps hebdomadaire. J'ai grandi dans l'Église méthodiste. Et j'aurais pu y rester toute ma vie et je n'aurais jamais compris le sabbat. Je n'aurais jamais compris que Dieu avait donné un jour chaque semaine pour venir devant lui, l'adorer, et que ce jour était le 7e jour. Et je n'aurais jamais entendu parler des fêtes de Dieu et je n'aurais jamais entendu parler de la prophétie. On parlait beaucoup de politique, on parlait de gentillesse, on parlait d'être bon envers les autres, mais on ne parlait jamais de la prophétie. Ma grand-mère, je me rappelle lorsque j'étais petit, nous lisait un petit livre qu'elle avait et qui s'appelait « La chambre haute ». C'était une dame qui avait grandi dans l'église méthodiste. Et dans ce petit livre-là, ça présentait différentes petites histoires et des prières qu'on pouvait dire chaque jour. Et j'avais dit à ma grand-mère à un moment donné, après que je suis venu à l'église, je me rappelle, « Grand-maman, vous pourrez lire ça toute votre vie ». Jusqu'à temps que les yeux vous tombent des orbites et vous ne comprendrez pas vraiment ce que la Bible dit, parce que ceux qui ont écrit ce petit livre-là ne le comprennent pas, ils ne peuvent pas l'expliquer. Le monde publie plein de choses comme ça. Est-ce que les gens sont méchants? Non, ils sont gentils. Comme les membres de ma famille à l'époque, polis, ils n'essaient pas de tuer les gens, mais ils n'ont pas encore été appelés maintenant. Bien sûr, ils croient ce qu'on leur a enseigné depuis qu'ils sont petits, tout simplement. Nous annonçons ce que la Bible dit dans nos émissions télévisées. Monsieur Ames, moi, et nous parlons, nous expliquons aux gens qu'aujourd'hui, ce n'est pas le seul jour de salut, que Dieu va appeler le reste de l'humanité en leur temps. Les protestants détestent l'idée, je ne sais pas pourquoi, qu'aujourd'hui, ce n'est pas le seul jour de salut. Et les protestants disent que tous les gens doivent se convertir maintenant, sinon ils sont perdus. Non, écoutez, il y a des milliards de gens à travers l'histoire qui sont morts sans même avoir entendu parler de Dieu. Dieu serait injuste si c'était le cas. Non, Dieu est juste. Seule l'Église de Dieu comprend le plan de Dieu et peut expliquer que Dieu appelle seulement un petit nombre pour maintenant, mais qu'au retour de Christ, Dieu va appeler le reste du monde. Ils auront leur chance. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu a un plan spécifique, précis, qu'il réalise par étapes. Après ça, verset 12, l'autre commandement, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier des commandements qui s'adresse aux relations entre êtres humains. Les quatre premiers commandements concernent notre adoration de Dieu et les autres commandements représentent notre façon de vivre les uns envers les autres. Alors, vos parents vous ont donné la vie, ils ont eu soin de vous, ils vous ont protégé, ils vous ont nourri. Honorez vos parents. Verset 13, « Tu ne tueras point ». C'est la chose la plus terrible, je pense, d'enlever la vie d'un autre être humain. Alors, vous savez, il commence en disant « Honore ton père et ta mère ». Et il commence d'abord par dire « Honore Dieu » en n'ayant pas d'autre Dieu devant sa face et ainsi de suite, et en ne te prosternant pas devant les images et en observant son Saint-Sabbat et ainsi de suite. Et par après, on honore ceux qui sont, pour ainsi dire, dans le poste de Dieu sur le plan humain, ceux qui nous ont donné la vie, notre père et notre mère. Et les parents normaux ne montent pas à être méchants envers les autres et même à vouloir tuer. Et c'est pour ça que les autres commandements à la suite disent « Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère », ce qui attaque la base même de la société, la famille. La société est basée sur la famille. Et lorsque un ou des conjoints vont vers d'autres personnes que leur conjoint pour avoir des relations sexuelles, ils blessent, ils trichent et ils apportent de la douleur aux leurs. Et souvent, ça laisse les enfants sans parents à cause de tous les divorces. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Si Dieu était un menteur, qu'est-ce qui arriverait? C'est impossible. On ne pourrait pas se fier à rien. Écoutez, si quelqu'un vous ment depuis des années, il vient vous voir et qu'il dit « Ah, je ne veux plus mentir maintenant, je vais dire la vérité », comment vous allez réagir? Vous allez vous dire « Ça fait des années qu'il me ment, est-ce que je dois le croire maintenant? » Vous ne savez pas à ce moment-là quand la personne va vraiment dire la vérité. M. Armstrong parlait d'un type dans l'Église qui se repentait, et M. Armstrong disait « C'est un champion de la repentance dans l'Église. » Mais il a dit « Il ne se repent pas vraiment, parce que le repentir veut dire changer. Il ne change pas. Il dit qu'il regrette, mais il ne change pas. Le repentir, ça veut dire être tellement attristé de ce qu'on a fait qu'on fait tout ce qu'il faut par la puissance de Dieu pour changer. Il ne s'agit pas simplement de dire « je regrette, je regrette, je regrette » et de tout le temps refaire la même faute. Et Dieu ne peut pas faire confiance à une telle personne. Apprenez à dire la vérité. Nous prêchons la vérité, nous enseignons la vérité et vivons-en aussi. Alors donc, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et verset 17, « Tu ne convoiteras point. Ne convoitez point la propriété de votre voisin, son poste, son... » N'épouse. Certaines personnes sont jalouses lorsque quelqu'un est ordonné diacre ou diaconesse ou se voit accorder un poste. Ne faites pas ça. Les promotions ne viennent ni de l'Est ni de l'Ouest, mais viennent de Dieu. C'est lui qui est en charge. Psaume 75 et le verset 6, je pense. C'est Dieu qui élève une personne ou qui abaisse une autre personne. Mettez votre confiance et votre foi en Dieu. Ne convoitez pas, y compris des postes ou un conjoint ou autre chose, parce qu'autrement, vous allez vous détruire. Quand vous convoitez quelque chose que vous ne méritez pas, que vous ne devriez pas avoir ou qui ne vous appartiennent pas et qui ne peuvent pas vous appartenir, c'est de la convoitise. Le grand Dieu vivant nous a donné une loi, une façon de vivre. C'est le Christ qui nous a donné cette loi-là. C'est celui qui a tonné de sa voix les 10 commandements sur le mont Sinaï. Ce ne sont pas les commandements d'un Dieu vieux, ancien, dépassé. Non, pas du tout. Dieu n'est pas comme ça. Ce sont les commandements du Christ et de son Père. Les commandements du Christ remplis de miséricorde, d'amour, de bonté. Et le Christ a donné ces lois-là de la part de son Père. Et ces lois-là sont aussi réelles que la loi de la gravité. M. Armstrong expliquait ça à l'ambassadeur Collège. Il me donnait des exemples, comme ma Bible ici, par exemple. Si je laisse tomber ma Bible comme ça ici, je n'ai pas besoin de la pousser pour qu'elle tombe. Elle va tomber par elle-même, automatiquement. C'est la loi de la gravité. Si vous commettez l'adultère, automatiquement, il y a une pénalité. Il faut le comprendre. Il y a une pénalité automatique qui s'applique. Vous commencez à sceller votre conscience concernant le sexe, concernant l'aspect sacré de cette union. Vous commencez à vous endurcir concernant la beauté et la particularité de la relation sexuelle exclusive entre conjoints. Et vous le répétez et vous allez mentir pour vous couvrir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous détruisez alors votre relation avec votre conjoint. Et messieurs ou madame, si vous commencez à faire ça, c'est grave. Si vous mentez, si vous volez, il y a des conséquences automatiques, il y a des pénalités automatiques. Dieu n'a pas besoin d'envoyer des anges pour vous attraper lorsque vous faites ces choses-là. Bien sûr, il sait ce que vous faites, il sait ce que vous pensez, il sait ce que vous faites n'importe quand, mais la question est de reconnaître qu'il y a des pénalités automatiques aux transgressions de la loi. Nos mariages peuvent être plus heureux. Nos vies peuvent être plus heureuses. Et nous pouvons ainsi développer le caractère de Dieu lorsque nous demandons sa force pour vivre selon ses caractères, non pas parce qu'on peut gagner notre salut, mais on doit se montrer digne et se préparer pour être des serviteurs des rois dans le monde à venir. Le salut, c'est un don. La vie éternelle nous sera donnée. Mais c'est par le sang du Christ que nous sommes lavés de nos fautes passées et qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on se repent, comme dans Actes 2, verset 38, comme Pierre a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et alors vous recevrez le Saint-Esprit. » Mais la première chose, c'est de se repentir. Se repentir, ça ne veut pas dire simplement être triste de ce qu'on a fait. Ça veut dire se détourner de notre façon de faire. Lorsqu'on abandonne le péché, on se détourne complètement. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est marqué clairement dans 1 Jean 3 et le verset 4. Le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 4, il définit clairement ce que c'est. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Et il ne parlait pas de la loi de la circulation. À ce moment-là, ils avaient des chevaux et des ânes. Il n'y avait certainement pas les mêmes lois de circulation que nous avons maintenant. Mais non, ici, Jean parle de la loi spirituelle de Dieu, les 10 commandements. C'est très clair. Et lorsqu'on se repent, on se repent d'avoir transgressé ces commandements-là, ces 10 lois. C'est ce que nous devons faire. On se repent de nos fautes, on demande pardon de nos fautes, Dieu nous purifie, et jour après jour, parce qu'on fait des erreurs parfois, pas parce qu'on vit en péché ou qu'on marche dans nos péchés, mais parfois il nous arrive de tomber. Alors on demande pardon à Dieu, et le Christ nous lave par son sang, jour après jour, année après année, et on fait du progrès dans la repentance. Parce que la repentance est un processus continu. Et si on n'a pas péché volontairement, le Christ continue à nous laver de nos fautes. Nous marchons avec Dieu. Si nous essayons sincèrement avec le Christ en nous de marcher avec Dieu, alors si vous faites ça, vous allez entrer dans son royaume. Vous allez avoir cette assurance de pouvoir entrer dans le royaume. Il faut que vous compreniez ces choses-là. C'est très important. Dieu veut que nous ayons cette sorte de caractère. Dieu ne nous donnera pas la vie éternelle si nous sommes rebelles. Si nous lui disons, non, je ne veux pas obéir à tes lois, ou je ne veux pas obéir à toutes tes lois, je veux faire ce que je veux, comme je veux. Non, à ce moment-là, Dieu ne nous donnera pas la vie éternelle. Allez au livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 17, ça parle du roi David ici, dans son combat avec le Philistin, avec Goliath. 1 Samuel, le chapitre 17, et nous allons commencer au verset 43. Alors, c'était au moment de la rencontre, du combat entre David et le géant, Goliath. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi, avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, on entend ça dans la société autour de nous, régulièrement, malheureusement. C'est triste. Et au verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches avec moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Voici ce jeune homme qui avait probablement 18 ou 20 ans à l'époque. Ce n'était pas un garçonnet, bien sûr, mais ce n'était pas un guerrier de longue date. De qui parle-t-il ici? Il parle de celui qui est mort pour vous et pour moi. Il parle du Dieu de l'armée d'Israël, notre sauveur. Et il dit à Goliath, c'est en son nom que je vais me battre contre toi. Et c'est lui qui va nous défendre un jour lorsqu'il va venir. Vous voyez dans Apocalypse qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va revenir sur la terre. Il va ébranler la terre comme ça n'a jamais été fait auparavant, à tel point que les êtres humains vont dire « Je regrette, je regrette, je regrette » et vont commencer à prêter oreille à son message et vont commencer à vouloir obéir aux lois de Dieu et vivre selon ses voies. C'est lui notre sauveur, l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, c'est notre souverain sacrificateur, c'est notre sauveur, c'est le roi des rois qui vient bientôt, notre grand roi, notre grand frère, le porte-parole de Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'armée d'Israël. Alors David lui dit, « Je viens contre toi au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Et il dit à la fin de ce verset-là, « Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » S'il vous plaît, frères et sœurs, réfléchissez à cela. Je ne serai peut-être pas ici pour terminer le travail. Je ne sais pas. Je vieillis, bien sûr. Ce que je vous dis, c'est qu'un jour, si nous continuons comme nous sommes partis et faisons les choses comme il faut, Dieu va nous aider à finir cette œuvre avec puissance, avec force, et le monde saura concernant le Dieu des armées d'Israël. Et Dieu va nous donner de finir cette œuvre avec une puissance jamais vue auparavant. Il va nous donner la force, même si nous sommes une toute petite armée comme l'armée de Gédéon, pour finir l'œuvre avec une puissance éclatante. Si nous sommes disposés à observer ses commandements et non pas à diluer ses voies, il va nous bénir, il va nous donner sa force, sa puissance. Il nous faut apprendre à marcher avec lui, marcher avec Dieu, avoir foi en Dieu. Allez avec moi, s'il vous plaît, à Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Matthieu, le chapitre 22, et on va commencer au verset 41. Alors, je prends un peu de thé durant mes sermons avec du miel, ça m'aide un petit peu parce qu'en vieillissant, j'ai plus de difficultés avec ma voix. Alors, Matthieu 22, donc, et le verset, attendez un petit peu, verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ ?» Que pensez-vous du Christ? Le mot Christ veut dire le oint de Dieu. Il ne savait pas qu'il était le Christ. Très peu de gens nous connaissent actuellement parce que nous sommes tout petits, mais très peu de gens connaissaient qui était vraiment le Christ à ce moment-là. Combien de personnes se sont réunies après sa mort? Au moment de la Pentecôte, 120 personnes. Le Christ n'essayait pas de sauver le monde à ce moment-là, et il n'essaie pas plus pour le moment, ça viendra plus tard. De qui est-il le Fils? Ils lui répondirent, de David, parce que les prophéties l'indiquaient. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite », tel que c'est marqué dans Psaume 110 et le verset 1. Alors le Christ leur a lancé un défi, il dit, qui croyez-vous que le Christ est? Alors ils ont répondu techniquement parce qu'ils savaient ce qui était écrit dans la loi, dans un sens. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qui était le Seigneur de David? David était le roi de la plus grande nation sur la terre à ce moment-là. Il a conquis tous ses ennemis. Il n'y avait pas de Seigneur au-dessus de lui, excepté Jésus-Christ. Celui de la famille royale divine qui s'occupe de l'humanité, celui qui a créé Adam et Ève, celui qui a toujours été le porte-parole du Père. Alors, ce grand Dieu-là, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite. » jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, c'est le Seigneur, au verset 44, c'est le Père qui a dit au Christ, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et les Juifs ne comprenaient pas, même s'ils avaient une grande intelligence. Et les Juifs sont très intelligents, ce sont souvent des sommités en sciences, en musique, dans les arts et ainsi de suite. Mais ils ne comprenaient pas. Il faut que Dieu appelle et que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un pour qu'il comprenne. Et verset 46, « Nul ne peut lui répondre un mot. » Il ne comprenait pas, mais nous pouvons savoir. C'est le Christ qui était le Dieu de l'Ancien Testament. Les 10 commandements, ou ce qu'on appelle les 10 paroles, ce ne sont pas les commandements d'un Dieu sévère. Ce sont les commandements de Jésus-Christ pour notre bien. Le Christ les a planifiés avec le Père, et lui les a donnés de sa propre voix sur le mont Sinaï. Et le Christ est Dieu, comme on a vu. Alors, le Christ, c'est lui qui était le Seigneur de David. Qui est le Christ qui doit vivre sa vie en nous? Qui est ce Christ avec qui nous allons partager la gloire à jamais? C'est lui qui, de toute éternité, existait avec le Père. Et c'est lui qui a planifié toute la création. C'est lui qui a planifié avec le Père que Dieu se reproduise, qu'il nous engendre par son esprit lorsque nous nous repentons, comme Pierre a parlé, et que nous vivions une vie chrétienne et que nous développions le caractère de Dieu et qu'il puisse nous donner la vie éternelle à la résurrection. Vous vous rappelez lorsqu'Adam a donné des noms aux animaux après la création, il a peut-être souri lorsqu'il a vu les poulets ou les moutons. Mais à un moment donné, il a dit, il manque quelque chose ici. Il a vu tous les animaux, mais il manquait quelque chose. Et Dieu, tout à coup, a créé cette créature merveilleuse, Ève. Et là, Adam a dit, ah, voilà, la femme. Le nom de l'homme en hébreu, c'est Ish. Et le nom pour désigner la femme, c'est Isha. C'est-à-dire, Isha vient de Ish. Elle était comme Ish. Sauf qu'elle avait un corps de femme, et Adam a trouvé ça joli, bien sûr. Et le corps de la femme est magnifique, tant et aussi longtemps qu'on y pense et qu'on l'utilise de façon que Dieu veut, à l'intérieur du mariage. Mais c'est le Christ qui a fait la création, qui nous a fait à son image. Alors, le Christ est notre Créateur, il est notre Sauveur, il nous aime, c'est lui qui nous donne tous les dons parfaits dont nous avons besoin pour arriver au but. Et il nous faut le voir de cette façon-là. Allez au livre de Philippiens, s'il vous plaît, le chapitre 2. Philippiens, chapitre 2 et verset 3. Il dit aux gens de l'église de Philippe aussi, mais ça s'adresse à nous. « Rendez ma joie parfaite. » Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti. Non, ne convoitez pas, ne soyez pas en colère envers les autres. Soyez en colère avec vous, contre vous-même, parce que vous agissez mal à l'occasion, et demandez pardon et changez. Mais ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Nous sommes tous différents. En tant que chef humain de l'Église, j'essaie de mettre les chevilles carrées dans les trous carrés, les chevilles rondes dans les trous ronds, de mettre, autrement dit, les bonnes personnes aux bons endroits, mais personne n'est parfait, bien sûr. Mais il dit, ne faites rien par ambition personnelle, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Réalisez que tous les êtres humains autour de vous sont faits à l'image de Dieu et que cet être humain-là a des problèmes, bien sûr, mais Dieu regarde du haut du ciel et lorsqu'il voit mes problèmes, peut-être que mes problèmes sont plus graves que les problèmes de la personne qui est à côté de moi. Et il nous faut comprendre ça. On ne doit pas juger les autres, mais on doit se juger soi-même, on doit s'examiner soi-même pour changer. Et je dois m'examiner dans ce sens-là. Ça fait longtemps que je suis dans l'Église et il ne faut pas que je sois vain. Il ne faut pas que je me pense important. Je me rappelle du premier homme que j'ai baptisé il y a très, très, très longtemps. Son nom était A.M. Coffin en anglais. Et je me rappelle, ça m'avait frappé comme nom parce que ce nom anglais veut dire cercueil. Alors, c'était Monsieur Cercueil, si vous voulez. Ça m'avait frappé. Et l'homme était très âgé. Il avait 84 ans. Il avait 4 fois mon âge. J'avais 21 ans à l'époque. C'était un homme formidable. Et par après, il est venu au collège ambassadeur à partir du Texas. Et il a aidé un de ses amis millionnaires à faire un élevage de chèvres pour servir le lait de chèvre dans les hôpitaux de la région, et ainsi de suite. Il essayait de faire du bien. Et par après, il est venu à la fête. Il a vécu 2 ou 3 ans après son baptême. C'était un homme bien. Mais j'étais très jeune à ce moment-là. Et je regarde en arrière maintenant et je me dis, je suis dans l'Église depuis autant d'années, depuis plus de 50 ans. Et pourtant, M. Coffin était dans l'Église peut-être 2-3 ans avant de mourir. Je me rappelle du cas de Bill Humberger aussi. C'était un fermier qui cultivait des arachides au Texas. Il avait vendu sa ferme à ce moment-là. C'était un homme célibataire. Il manquait des dents dans sa bouche. Mais c'était un homme patient, aimable. Il a amené son vieux camion à l'Église. Et il a tout donné à l'Église. Et il a travaillé pendant des années sans salaire pour servir l'œuvre. Et je me rappelle, après sa mort, je pense, on était 4 ou 5 évangélistes, mais ça ne veut rien dire, écoutez, même s'il y a 5 évangélistes ensemble, parce que la plupart de ceux-là ne sont plus là maintenant. Lorsqu'on regarde les photos de l'époque, ces hommes-là ne sont plus là maintenant. Je ne nommerai pas personne, mais ils ont abandonné la vérité, ils ont quitté. Mais je me rappelle qu'on disait à ce moment-là, peut-être que Bill Humberger aura peut-être une place supérieure dans le royaume à la nôtre, parce qu'il a peut-être fait davantage avec ce qu'il avait que nous, avec ce que nous avons fait dans toutes ces années. Voyez-vous? Alors, on ne peut pas évaluer ces choses-là. Dieu connaît le cœur. Monsieur Humberger avait une 50aine d'années. Sa santé était très fragile. Alors, peut-être qu'un jour, Dieu me dira, Roderick Meredith, tu aurais dû être davantage comme Paul et te pousser à l'extrême comme l'apôtre Paul pour faire le travail encore plus solidement. Et c'est sûr que je ne me suis pas poussé à l'extrême comme l'apôtre Paul. Je n'ai jamais été dans un bain de sang après avoir été lapidé. Je n'ai pas vécu ces choses-là comme l'apôtre Paul a vécu, et Dieu le sait. Alors, ne vous découragez pas. Chacun de vous, vous devez faire au mieux que vous pouvez dans les circonstances où vous vous trouvez et avec les talents que vous avez et les possibilités que vous avez. Et personne ne doit vous mépriser. Dieu connaît votre cœur, Dieu connaît vos circonstances. Je vieillis et je réalise ma mortalité. Et je veux que chacun des autres autour de moi, des autres ministres autour de moi, réalise leur plein potentiel, de même que leurs épouses aussi. Et chacun de nous qui sommes appelés dans l'Église, nous devons réaliser notre plein potentiel. Sinon, Dieu va nous en demander des comptes. Alors, le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez cette sollicitude que le Christ avait. Je ne l'ai pas parfaitement, mais je travaille dessus. J'essaie d'améliorer. Je peux dire que je suis une œuvre en progression, si vous voulez. Et la même chose pour vous. Vous êtes une œuvre en développement. Mais il nous faut avoir en nous les sentiments de Christ et développer ces attitudes-là. Et il y a des choses merveilleuses concernant le Christ dans les versets suivants. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Et ça vient du mot grec kenosis. Il s'est dépouillé lui-même. Kenosis veut dire se dépouiller, laisser de côté, se départir de. Il était avec Dieu depuis toute éternité et il n'était plus à la droite de Dieu. Il a été sur la terre pendant 33 ans et demi. Lui qui auparavant resplendissait comme le soleil et dont la voix était comme des milliers de tonnerres. Il avait tout abandonné cette gloire et cette puissance pour devenir un être humain totalement, pour vivre l'expérience humaine comme nous la vivons, comme il est écrit dans Hébreux 4, 14. Il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié en devenant un simple être humain et il a accepté de donner sa vie, de se voir cracher au visage, d'être frappé, d'être flagellé, de voir sa chair être littéralement tranchée sur lui. Il savait que ça s'en venait. Il avait vu des hommes mourir sur la croix à l'époque parce que c'était un châtiment commun. Et c'était des meurtriers ou des gens méprisés. Et les Romains procédaient de cette façon-là. Alors le Christ savait d'avance la souffrance qu'il allait connaître. Et lorsqu'il a établi avec le Père le plan sur sa création humaine, il savait par quoi il allait passer et il a été disposé à se dépouiller lui-même de sa gloire, de ses pouvoirs, de sa divinité pour devenir un simple homme et être tué par les hommes, par ses propres créatures. Il s'est humilié lui-même. Ne diluez pas les choses, qui que ce soit dans l'Église. Pensez à ce que le Christ a fait pour vous. Et Dieu veut que chacun d'entre vous, vous les jeunes gens, vous les gens plus âgés, il veut que vous changiez, que vous ne diluiez pas les choses. Certains d'entre vous, vous continuez à fumer, vous buvez trop, vous volez, vous mentez. Certains maltraitent leur épouse, je sais. Je ne veux pas dire que vous le faites tous, mais à travers l'histoire, il y a des gens qui étaient dans l'Église et qui faisaient ça. Et quand vous faites ça, vous vous faites mal à vous. Vous ne me faites pas mal à moi. Mais vous vous faites mal à vous, vous faites mal aux vôtres. C'est écrit dans Jérémie 17, le verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Lorsqu'on comprend la nature humaine, on peut connaître la méchanceté de notre cœur et par la puissance de Dieu, on peut changer. Mais j'ai vu plein de choses dans ce sens-là à travers l'histoire. Il y a des chefs de département dans l'Église. Il y a des évangélistes dans le passé qui ont joué des petits jeux politiques. Certains buvaient trop. Certains commettaient l'adultère. Certains essayaient de renverser M. Armstrong pour prendre son poste. Et ils voulaient être plus importants. Est-ce qu'ils pensaient que Dieu ne savait pas ce qui se passait dans leur cœur? Soyons honnêtes et justes devant Dieu. Nous sommes proches de la fin d'une époque. Cette Église veut enseigner le vrai christianisme en vive, l'annoncer. Et je veux que vous le compreniez. Qui sommes-nous? Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Et il nous faut nous tenir debout. Le Christ s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un esclave. Et il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Alors, si vous restez fidèle, si vous, avec l'aide de Dieu, changez, Dieu vous donnera un nom nouveau et vous allez être utilisé pour changer le monde entier, pour servir l'humanité, pour amener le merveilleux monde à venir. Ne soyez pas des demi-chrétiens. Dieu veut que nous soyons totalement soumis à lui, totalement dans tous les aspects de notre vie. Allons à Philippiens chapitre 1, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 1, et on va commencer au verset 19. Il dit ici, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est par sa puissance seulement que nous pouvons y arriver. » Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Il aimait Dieu. Il aimait le Christ. Paul adorait le Christ. Le Christ s'était révélé à Paul directement, d'une façon puissante, par des visions et par des rêves, en Arabie, durant plus de 3 ans. Et Paul avait cette relation très intime avec le Christ. Et ce serait formidable si Dieu nous donnait, à certains d'entre nous, de vivre cette expérience-là, l'expérience que Paul a vécue avec le Christ lui-même, directement. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul dit, que je meure ou que je vive, je veux que le Christ soit glorifié en moi, car Christ est ma vie. Voilà une phrase très importante. C'est le but de la vie ici. Christ est ma vie. Ma vie a pour but de magnifier le Christ, de représenter le Christ. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Il a travaillé tellement fort. Il avait toutes sortes de cicatrices sur son corps à cause qu'il a été battu, lapidé. Et il a souffert de différentes choses par-dessus tout ça. Et il en avait assez, il aurait aimé mieux s'endormir à un moment donné. Mais il dit par après, « Si c'est mieux que je reste pour vous servir, je vais rester. » Ayons cette attitude, frères et sœurs. Que le Christ soit magnifié dans nos corps, que ce soit par notre vie ou par notre mort. Rappelez-vous, nous avons donné notre vie à Dieu au baptême. Il ne faut pas jouer des petits jeux. Luc, écoutez-vous, tous les jeunes gens à travers le monde, écoutez quelle est la vraie façon d'être chrétien. C'est le Fils de Dieu qui parle ici, le Créateur du ciel et de la terre et de tous les êtres humains. Verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un, ça veut dire vous, vous-même, personnellement, Jeanne, Julien, Armand, Luc, et qui que ce soit dans l'Église que Dieu appelle, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, alors si quelqu'un vient à moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut être chrétien, marcher dans la voie chrétienne, se convertir vraiment, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est le Christ qui vous a donné même votre vie. Il dit, si vous n'êtes pas prêt à abandonner tout ça, vous ne pouvez pas être son disciple. Et quiconque, verset 27, ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Il faut être disposé à passer à travers quelles que soient les circonstances, même la persécution. Il faut se tenir debout pour quelque chose, comme David qui s'est tenu debout au nom de l'Éternel, du Dieu des armées d'Israël. Écoutez, vous, jeunes gens, nous avons besoin de vous. Soutenez cette œuvre à travers le monde. Il nous faut être capable de nous tenir debout, d'être des guerriers. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Est-ce que vous allez continuer avec votre plan? Est-ce que vous avez la bonne éducation? Est-ce que vous avez bien établi votre plan? Est-ce que vous êtes prêt à faire tout le chemin malgré les obstacles? Est-ce que votre décision est vraiment ferme d'aller jusqu'au bout et de vaincre les obstacles avec l'aide de Dieu jusqu'à la fin? M. Armstrong a commencé à bâtir l'ambassadeur collège et à 2 ou 3 reprises, je me rappelle, il nous a dit, il s'était couché le soir et a demandé à Dieu de prendre sa vie avant le lendemain matin. La banque réclamait son dû. Il était accusé par les gens et les membres de la faculté à ce moment-là se moquaient de lui et disaient, lorsque cette organisation va s'effondrer. Ça, c'était des gens autour de lui, en parlant de l'Église. Et le lendemain matin, lorsque M. Armstrong se levait, il se repentait, il demandait pardon à Dieu, et il demandait son aide, et il disait, « L'œuvre de Dieu va réussir, il faut que je continue. » Et il nous faut avoir cette attitude-là, quelles que soient les circonstances. Nous sommes des chrétiens, et il nous faut comprendre ça. Et il nous faut être les esclaves de Jésus-Christ, être ses ambassadeurs. C'est pourquoi nous sommes ici. Il dit au verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Et dans notre cœur, il faut donner tout à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Mon temps, mon énergie, ma famille, ma maison, ma voiture, tout ce que j'ai. Dieu ne veut pas que vous donniez tout votre argent, bien sûr. Il faut être équilibré. Mais il faut que nos priorités soient du bon côté et servir Dieu au mieux que nous pouvons, au maximum, et continuer. Il faut faire attention à notre famille, avoir soin de notre santé, avoir soin de notre famille. mais il faut être prêt à mettre Dieu en premier. Il dit, verset 34, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Si vous n'avez pas ce sel, si vous n'avez pas ce zèle, si vous n'avez pas cet enthousiasme pour dire « c'est le chemin que je dois suivre, voilà la vérité, voilà le sens de la vie, et je vais y consacrer toute ma vie. » Le Christ ne veut pas avoir une église tiède. Allez voir Apocalypse 3, à partir du verset 14. Il parle de l'église laodicéenne. Il n'accuse pas les laodicéens d'avoir de fausses doctrines, mais il dit que ce sont des gens qui connaissent la vérité, comme on voit, mais ce sont des gens tièdes. Tièdes. Ils ne sont pas en feu pour Dieu. Ils ne sont pas zélés pour Dieu. Ne laissez pas cela vous arriver, s'il vous plaît. Il nous faut être enthousiasmés de la bonne façon, sur nos gardes et zélés. Vous ne pouvez pas faire ça par vous-même, bien sûr. Moi non plus, je ne peux pas. Personne d'entre nous ne peut faire ça de ses propres forces. On en revient toujours à mon verset favori, et d'autres versets disent la même chose, mais dans Galates, c'est bien clair, et c'est notre encouragement, parce que la force pour réaliser ces choses-là nous vient de Dieu. Galates 2, verset 20, Paul dit ceci, « Je suis crucifié avec le Christ, lui ai donné ma vie, mais si je vis, je ne suis pas mort, je suis vivant spirituellement, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Ce n'est pas le Paul humain, ce n'est pas le Julien ou la Jeanne encore physique, mais c'est la nouvelle personne baptisée qui a le Christ en elle. C'est le Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous vivez par la foi du Christ. Ce n'est pas votre foi, c'est la foi du Christ. Demandez-lui. Tout doit nous venir de lui. Apocalypse 14, verset 12. Ça mentionne ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi du Christ. Ça doit être le Christ qui vit en vous par son Saint-Esprit. Et c'est lui qui vous donne l'amour nécessaire, qui vous donne la force dont vous avez besoin, qui vous donne la sagesse. C'est lui qui agit en vous et à travers vous par la puissance de son Saint-Esprit. C'est lui qui le fait, ce n'est pas vous. C'est la seule façon par laquelle vous et moi, nous pouvons le faire. Nous ne le faisons pas toujours parfaitement, bien sûr, mais il nous faut faire des progrès, il nous faut grandir. Et être l'Église de Dieu, être l'ambassadeur de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés. Allons maintenant, s'il vous plaît, au livre de Colossiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, cette fois-ci, Colossiens, chapitre 3, en commençant au verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous avez été baptisé, vous êtes sorti des eaux du baptême, si vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes la nouvelle personne dont parle la Bible, la nouvelle créature spirituelle, à ce moment-là, cherchez les choses d'en haut. Ce n'est pas important d'avoir une deuxième télévision ou une deuxième voiture, d'avoir les mêmes choses que nos voisins. Ce n'est pas ça votre but. Ce n'est pas mauvais d'avoir certaines choses physiques, mais il faut être équilibré. Et il faut s'assurer que notre priorité est dans Dieu, dans son Église, dans la mission de l'Église, dans le développement de son caractère. Et je dois moi-même le faire. Et chacun d'entre nous dans l'Église, nous devons vivre de cette façon-là et avoir cette attitude-là. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort. Si vous avez vraiment donné votre vie à Dieu, votre vieux moi est mort et votre vie est cachée en Jésus-Christ, en Dieu. Quand le Christ, votre vie, est-ce que ce n'est pas une belle expression? Pensez-y. Lorsque le Christ, qui est votre vie, nous n'avons aucune vie par nous-mêmes si nous sommes vraiment convertis et si le Christ vit en nous, c'est le Christ qui est notre vie. C'est lui qui vit en nous, c'est lui qui nous guide, qui nous aide, qui nous délivre. C'est le chef de l'Église, c'est notre protecteur. C'est lui qui va nous délivrer de la tribulation qui vient. C'est notre bouclier, c'est notre forteresse, c'est le rocher de notre salut. Il est l'Éternel, le Seigneur, le chef des armées de l'Éternel. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Comment? Dans la gloire. Quelle chose merveilleuse à attendre. nous allons littéralement exploser dans une dimension nouvelle, dans une dimension de vie autre. Nous le rencontrerons dans les airs lorsqu'il descendra et nous serons avec lui. Et nous viendrons sur le mont des Oliviers et nous allons l'assister pour régner sur cette terre. Et nous allons graduellement enseigner la vérité de Dieu sur la terre. Et le Christ sera à Jérusalem et la loi de Dieu, pas d'autres lois, mais la loi de Dieu sera la loi du monde entier graduellement alors que nous allons l'enseigner. Nous allons enseigner aux gens comment vivre, comment aimer Dieu, comment aimer leur prochain, comment prendre soin les uns des autres. Nous allons leur montrer. C'est extraordinaire. C'est ce qui nous attend. C'est ce que le Christ veut que nous soyons. Nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Faites donc mourir, verset 5, ce qui, dans vos membres, intéresse la débauche, la fornication. Vous aimez regarder les films d'Hollywood avec toutes ces scènes d'adultère, de fornication, d'homosexualité ou de ce que vous voudrez? Vous ne devez pas faire ça si vous voulez garder votre esprit purifié. Je sais que c'est plus difficile maintenant que lorsque moi, j'ai grandi, parce qu'il y avait beaucoup moins de ces choses autour de nous à ce moment-là. Je sais que c'est plus difficile, il y a plus de pression avec la société qui est devenue plus mauvaise autour. Les femmes sont devenues aussi méchantes que les hommes aujourd'hui, ils couchent à gauche et à droite. Et c'est affreux. C'est une façon de mépriser la belle sexualité que Dieu a faite, de souiller la sexualité que Dieu a créée comme une chose belle pour être vécue avec joie entre un homme et une femme dans le mariage. L'impureté, et ça comprend, si vous voulez, la pornographie, la masturbation, l'homosexualité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, comme on voit de plus en plus autour de nous, et particulièrement aux États-Unis, qui est une idolâtrie. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques. Arrêtez d'utiliser un langage sale. Revêtez l'homme nouveau. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres au moment du baptême. Revêtez l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 14 ici. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour envers Dieu, envers le Christ et l'amour envers notre prochain. C'est le lien de la perfection. Et que la paix, verset 15 de Dieu, la paix de Christ, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Vous devez vous-même étudier votre Bible pour comprendre ça de façon plus approfondie. Nourrissez-vous de cette vérité biblique chaque jour. Vous n'avez pas besoin de regarder la télévision. Vous n'avez pas besoin de rester assis devant l'ordinateur. Dieu vous a donné la vie. Dieu vous a donné de comprendre son plan maintenant. Agissez en conséquence, considérez-le comme précieux, soyez reconnaissant de ça et organisez votre vie en conséquence. Et regardez le verset 17. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites-le en tant que ses serviteurs, parce que vous lui appartenez. Faites-le au nom de Jésus-Christ, en le remerciant. Vivez au nom de Jésus-Christ. » Marchez et parlez au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous faites devrait être fait au nom de Jésus-Christ et selon sa volonté. Parce que vous faites partie de l'Église de Dieu qui est le corps de Christ. Vous faites partie d'une équipe. Vous êtes des esclaves de Jésus-Christ si vous êtes vraiment convertis. Vous et moi, nous sommes des ambassadeurs. M. Armstrong nous en a parlé tellement souvent. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs de Christ représentant un autre gouvernement. Un royaume qui va bientôt être établi sur la terre sous la gouverne de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce en quoi consiste le christianisme. Et c'est pourquoi vous êtes nés.